Donc, comme je disais, on est dans Éphésiens 6, versets 10 à 24. Gardez bien vos Bibles ouvertes, si vous avez, même sur les téléphones, vous pouvez regarder. Donc, je vais lire Éphésiens 6, 10 à 24. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Donc, nous sommes dans une série sur Éphésiens. Et les trois derniers dimanches, on a fait une pause à juste titre approprié parce qu'on voulait méditer sur la mort et sur la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, on reprend avec notre série sur Éphésiens et ce sera la dernière partie. Donc, c'est les versets 10 à 24 du chapitre 6. Donc, c'est les derniers de la lettre. Et pour résumer ce qui est dit dans ces versets, en deux mots, il dit en gros, tenez ferme. Et c'est ça le titre du message d'aujourd'hui, tenez ferme. Comme on l'a lu, c'est une expression qui revient plusieurs fois. Par exemple, au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Puis au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et enfin au verset 14, tenez donc ferme. Ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. En lisant le texte, je me suis dit, de quoi parle ce texte? J'ai l'impression que ça parle de tenir ferme. Ça revient tellement de fois. Pourquoi il faut tenir ferme? Et dans quoi il faut tenir ferme? Je pense que c'est bien de faire un rappel de tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vu dans les premiers chapitres, parce que c'est la conclusion de tout ce qui a été dit avant. L'ensemble de la lettre aux Éphésiens parlait d'un premier temps de l'identité des chrétiens, comme on avait vu. Un chrétien, qu'est-ce que c'est? Et je ne vais pas tout refaire, mais on a cité plusieurs choses. Un chrétien, c'est d'abord quelqu'un que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Donc on a vu ça au chapitre 1, verset 4, si vous avez oublié, vous pouvez le voir. Donc si nous sommes chrétiens, ce n'est pas un accident, mais c'est une volonté délibérée, spécifique de Dieu lui-même. Dieu a voulu chacun de nous. On a vu ensuite que les chrétiens sont des personnes pardonnées. Dans notre identité en tant que chrétien, c'est qu'on est pardonné. C'est que Dieu ne va plus jamais nous reprocher quelque chose. Souvent, j'ai du mal à croire ça. Souvent, ma conscience m'accuse, mais c'est écrit dans la Bible. Si tu es chrétien, tu es pardonné de tous les péchés que tu as commis et même de ceux que tu vas commettre parce que Jésus a payé pour tous tes péchés. Ça, c'est une bonne chose, ça. On a aussi vu que les chrétiens étaient des personnes qui avaient été adoptées par Dieu. Si nous sommes chrétiens, ce n'est pas juste qu'on est, des hommes qui venons à l'église, maintenant on est dans le peuple de Dieu. Non, on est les enfants de Dieu. Souvent on le dit, les enfants de Dieu, mais je crois qu'on ne pèse pas le mot. On est des enfants de Dieu. Souvent on pose la question, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Et moi ma réponse est, est-ce qu'un parent humain peut rejeter son enfant? Bon, ça peut arriver, hein, mais c'est rare et c'est anormal, c'est une anomalie. J'imagine un parent qui voit son enfant qui dit: Ok, tu atteins ma limite, tu as encore laissé tes chaussettes au salon, tu n'es plus mon enfant, bloque mon numéro, et moi je vais te bloquer. Bon, ce serait très bizarre. En tout cas, Dieu ne peut pas rejeter ses enfants. En tant que chrétien, on est adopté. Et l'amour que Dieu a pour nous, c'est pas comme l'amour qu'on a pour quelqu'un qu'on aime bien, c'est comme l'amour d'un père pour son enfant, si nous sommes chrétiens. On a encore vu. Et c'est la quatrième carte ici que je vais rappeler. Tout ça, c'est au chapitre 1. Au verset 7, on a vu qu'en tant que chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi on peut croire que Jésus est ressuscité? Pourquoi on peut croire à des choses qui se sont passées il y a 2000 ans? Parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous convainc. Pourquoi ça nous donne la joie? Il y a le Saint-Esprit, on a reçu le Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas laissé trouver ça avec notre intelligence. Il nous a donné son esprit qui nous illumine, qui nous éclaire. Mais on a aussi vu que cet esprit-là, Dieu nous avait donné comme un gage. Maintenant, quand on a le Saint-Esprit, on commence à sentir un peu sa présence en nous. Et c'est l'avant-goût de ce qu'il y aura dans le ciel, qu'on va sentir pleinement la présence de Dieu avec nous. Ou bien nous, on sera dans sa présence. Donc ça, c'est quelques éléments de ce qui concerne les caractéristiques d'un chrétien, l'identité d'un chrétien. En ce qui concerne la marche du chrétien, c'est-à-dire... Comment donc se conduire? Vu qu'on est des enfants de Dieu, choisis avant le monde, on a reçu le Saint-Esprit, ça implique qu'il faut se conduire d'une certaine manière. Juste, je rappelle quelques points qu'on a vus. On a vu que les chrétiens doivent avoir une vie marquée par l'humilité, la douceur et la patience envers les autres. Juste parce que c'est comme ça que Dieu a été envers nous. On a vu aussi que les chrétiens devaient se conduire de façon à éviter le mensonge, à aimer la vérité. Au chapitre 4, verset 25. On a vu que les chrétiens doivent être des personnes qui renoncent à la colère. Et si ça arrive, comment dire, ne rumine pas leur colère, ne dorme, le passage disait ne dormez pas avec la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On a vu, enfin, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se conduire de façon à être intègre et généreux avec nos finances. On a vu d'autres choses. Donc, l'identité des chrétiens. Éphésiens, et comment un chrétien doit se conduire étant donné cette identité. Mais, il y a un mais. La parole nous annonce que tout ça est difficile. Et d'où le tenez ferme. Parce que vivre comme un chrétien, c'est difficile. Une raison déjà, c'est qu'on est toujours dans des corps humains. Il y a toujours ce que la Bible appelle la chair, dans la partie de notre corps qui n'est pas régénérée par le Saint-Esprit. Mais une autre raison qu'on voit ici, c'est que Satan existe. Souvent, on n'aime pas parler de ces choses-là. Une des raisons pour lesquelles on fait la prédication textuelle, c'est-à-dire qu'on lit la Bible verset après verset, c'est qu'on doit dire tout ce que la Bible dit. Si Dieu le dit, c'est qu'on doit le savoir. Une des raisons pour lesquelles ce sera difficile de marcher comme un chrétien, c'est que Satan existe. Il n'aime pas, il déteste le plaisir de Dieu. Vivre comme des chrétiens, marcher comme des enfants de Dieu, ça procure le plaisir de Dieu. Et Satan déteste ça. Et donc, il va tout faire pour nous empêcher de marcher comme des chrétiens. Il y a plusieurs manières de définir la vie chrétienne. Et une façon de voir la vie chrétienne, c'est que c'est un combat. C'est une vraie lutte au quotidien. Et on va le voir. Et donc, les premiers mots de l'apôtre Paul sont pour que les chrétiens tiennent. Les chrétiens et les chrétiennes tiennent ferme. Donc on va voir ça, on va parcourir quelques passages pour voir en détail ce que l'apôtre Paul nous dit dans ce texte. D'abord au verset 10, donc dans un premier temps il nous dit de tenir ferme par la force de Dieu. Au verset 10, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Merci. Comment est-ce qu'on va pouvoir se conduire comme le Seigneur nous y appelle? Ce n'est pas par notre propre force. C'est par la force de Dieu. Il nous dit, tenez ferme par la force de Dieu. Et il va nous expliquer, parce que c'est un combat spirituel. Comme on disait, Satan veut nous éloigner le plus possible de Dieu par les plaisirs du monde, par la distraction, etc. Et donc c'est dans le monde spirituel que ça se passe. Et nous, on ne va pas venir avec des armes humaines. On a besoin d'une arme spirituelle. On a besoin de la force de Dieu. C'est comme, il a pris une analogie avec le combat. Il a fait un peu une analogie d'un combat. Il a cité toutes les armures qu'on doit avoir. Et je me dis un peu, dans chaque sport en général, ou les sports de combat, il y a des règles. À l'escrime, il te faut une épée. Si tu vas à la boxe, il te faut des gants. Donc, tu viens pas à la boxe avec une épée. Tu viens pas à l'escrime avec des gants. Ici, c'est un combat spirituel. Et tu viens pas avec des armes, mais tu dois venir avec la force de Dieu. Et il va nous expliquer comment ça se fait. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La ruse du diable va nous poursuivre. Le diable va essayer de nous avoir par la ruse. Son arme, c'est la ruse. Et comment ça, c'est quoi, par exemple, la ruse? On se souvient, le premier péché qui a eu lieu dans la Genèse, c'était quoi la ruse du diable? Dieu a-t-il vraiment dit ça? Voilà une des ruses du diable. Refaire douter de la parole de Dieu. L'autre chose qu'il a dit à Ève, non, tu ne mourras pas. Mensonge. Faire douter de la parole de Dieu, infiltrer son mensonge en te faisant minimiser la désobéissance vis-à-vis des commandements de Dieu. L'autre chose qu'il a dit à Ève et dont on peut s'inspirer, tu ne mourras pas, mais tes yeux s'ouvriront, tu deviendras comme Dieu. Donc, il fait douter de la parole de Dieu, il ment. Il te fait croire que ce qu'il te vend, le plaisir pécheur qu'il te vend, va t'élever. Le plaisir que tu vas trouver dans le péché sera bon pour toi. Ruse du diable. Sans les armes de Dieu, on ne pourra pas réussir. On a besoin de s'appuyer sur Dieu lui-même pour tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable existe depuis des millénaires et il étudie la psychologie humaine. Il sait comment il va nous avoir. Et sans Dieu, on ne peut pas. Au verset 12, vous n'avez pas. Pardon. Donc, verset 12, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne connais pas tout ce qu'il dit ici, mais ce qu'il parle là, domination, autorité, ce n'est pas les autorités politiques, ce n'est pas les dominations terrestres, mais c'est tout ce qu'il y a dans le monde spirituel. Il y a une hiérarchie dans le monde spirituel, des gens qui se donnent des rôles. Donc, comme on l'a vu, le salut est gratuit. Dieu ne nous demande pas d'apporter quelque chose pour notre salut, pour devenir enfant de Dieu. Il suffit de croire en Jésus, que Jésus est mort pour nos péchés. Demander pardon et recevoir le Saint-Esprit. Mais une fois que ça c'est fait, la vie va être difficile. Vous n'avez, on va lutter. On va lutter. Mais il y a les moyens de lutter. Le deuxième point dans les versets 13 à 17, on peut tenir ferme avec les armes de Dieu. Parce que la ruse du diable est compliquée, voire impossible par les moyens humains. L'apôtre Paul dit, vous devez combattre, pas avec vos armes, mais avec les armes de Dieu. Dieu a mis à notre disposition les moyens pour tenir ferme face au diable. Donc, regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y aura le mauvais jour. Si quelqu'un est colérique, par exemple, quand il se lève le matin, il n'est pas en colère. Il y aura toujours une autre, c'est à l'occasion qui va se présenter. Et souvent, on peut s'excuser, dire, non, je suis pas comme ça tout le temps, c'est juste parce que j'étais provoqué. Mais tout le monde pêche quand il est provoqué. Donc, le diable cherche la faille à tout moment. Il attend le mauvais jour. Vous vous souvenez de l'histoire de David? Globalement, 90% de son temps, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il y avait juste le mauvais jour. Un jour, il est pas allé à la guerre. Il traînait sur son toit et puis il a été tenté d'aller vers la femme de l'un de ses soldats et finalement qu'il a tué. Le diable attend la faille. Il rôde comme un lion rugissant, comme un lion cherchant qui va dévorer, comme dit la Bible. Donc nous devons tenir ferme parce que c'est pas à tout moment qu'on va tomber, mais il y aura toujours un moment Peut-être un truc qu'on va regarder qu'on n'aurait pas dû d'un moment de faiblesse. Une parole qu'on va dire qu'on n'aurait pas dû d'un moment de faiblesse. Un acte qu'on va poser qu'on n'aurait pas dû d'un moment de faiblesse. Et les moments de faiblesse vont arriver. Et pour être ferme dans ces moments-là, il faut s'accrocher. Il faut prendre les armes de Dieu. Qu'on va voir dans la suite. Verset 14. Tenez donc ferme. Et là, il va nous donner la fameuse armure du chrétien. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La première arme dans l'arsenal de Dieu pour lutter contre le diable, c'est la vérité. La vérité pour ceinture. Pourquoi la vérité en premier? C'est pas un hasard. Qu'est-ce qu'on a vu dans la ruse du diable? Sa première arme, c'est le mensonge. Et comment tenir ferme? C'est avoir la vérité. Par ailleurs, l'apôtre Paul nous dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Pour tenir ferme, il faut connaître la parole de Dieu abondamment. Il dit la vérité pour ceinture. Dans le combat, enfin, à leur époque, souvent, et on voit souvent les images, les Romains avaient des tuniques. Ils n'avaient pas des pantalons comme nous. Donc, imaginez aller au combat avec ta tunique sans avoir mis ta ceinture. Ça peut être un désavantage. Et donc, il dit, vous devez être sain, comme prêt. Prêt à tout moment pour tenir ferme dans le mauvais jour. Et on aura tous des mauvais jours. Mais si cette vérité abondamment en nous, on pourra tenir ferme. Je pensais, bon, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais je pensais à un moment donné, peut-être, les jeunes, à un moment donné, il y aura une compagnie, beaucoup de compagnies. Moi, j'ai grandi au Cameroun, et une chose qui m'a choqué quand je suis venu pour mes études, c'était le nombre de jeunes qui fumaient à l'école. Bon, il y avait des fumeurs au Cameroun, mais c'était rare. C'était les deux, trois gars de la classe qu'on savait, bon, eux, voilà. Mais ici, je trouve que c'est très facile pour les jeunes de tomber dans une compagnie qui t'amène dans des excès, la cigarette, l'alcool, etc. Et donc, la compagnie va peut-être venir dire, tout le monde le fait. C'est pas si grave, tout le monde le fait, ça va rien te faire. Mais si tu es dans la vérité, tu sais que la Bible te dit, non, ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au monde. Mais pour être ferme à ce moment-là, il faut être profondément ancré dans la vérité. Ou pour les adultes, à un moment, il peut avoir une suggestion dans ton esprit. Mais non, ne déclare pas cette ligne-là, ne déclare pas ce revenu-là. Mais si tu es ferme dans la vérité, tu sais, voilà, il faut déclarer la vérité. Il faut marcher selon la vérité, faire confiance à Dieu. Donc la vérité, la parole de Dieu. La deuxième arme dans l'arsenal de Dieu, dans les armes de Dieu, c'est la cuirasse de la justice. La justice dans la Bible, c'est la caractéristique de quelqu'un qui est juste, de quelqu'un qui est intègre. Je pense que quelqu'un qui marche dans l'intégrité, qui est droit dans ses bottes, en général, qui n'a pas à se reprocher, en général, il est droit dans ses bottes. C'est comme un enfant, si vous le prenez et que vous dites, qui a fait ça? Si c'est pas lui, si c'est lui qui a fait, il va paniquer. Mais si c'est qu'il n'a rien fait, il est tout de suite plus serein. Et ça vaut pour nous aussi, l'intégrité te rend juste plus serein. Je vois la cuirasse de la justice un peu comme quand tu roules dans une voiture qui a des airbags, tu as ta ceinture de sécurité, tu es plus serein. Si tu roules dans une voiture qui n'a pas toute la sécurité, bah, tu es moins serein. Dis qu'on est intègre, on est droit dans ses bottes. La chaussure, le zèle qui donne l'évangile. Ayez pour chaussure au pied le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, on connaît le contraire du zèle dans la Bible, c'est la paresse. Et l'apôtre Paul nous dit juste être au travail pour l'évangile. Ça va nous aider à tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a le fameux proverbe qui dit le travail éloigne de nous le vice, l'ennui, le besoin. Je pense que c'est vrai spirituellement. Quand on se met à travailler pour le Seigneur, quand on a juste envie d'être efficace pour le Seigneur, On n'a pas le temps de s'occuper des choses qui pourraient nous faire tomber. Je vois ça un peu comme faire du vélo. Tant que tu roules, tu ne tombes pas. Mais si tu t'arrêtes, forcément, tu n'as pas l'équilibre. Sur les deux roues, en tout cas. Donc, ils disent, ayez du zèle. et du zèlement de la paresse. Je vois ça dans les petites choses. Juste s'activer pour le Seigneur. Et demander qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est quoi la foi? C'est croire en Dieu. Et on sait, la vie va être dure. La vie va être dure. Dans ce monde, il y aura toujours des moments sombres. Je crois que la foi peut nous empêcher de sombrer dans ces moments-là. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Job était très riche. Il avait perdu toute sa fortune, perdu toute sa famille. Et là, c'était facile de lui dire, Dieu l'a abandonné. Il disait, non, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu m'a tout donné et Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. Ça, c'est la foi. Croire Dieu, même quand on ne voit pas. Et la foi va nous empêcher de sombrer dans ces moments-là. Parce qu'on aura toujours la certitude que Dieu est bon, Dieu est notre Père. Même si ce qui est matériel, dans ce qui est matériel, on ne le voit pas. La foi, c'est croire à ce qu'on ne voit pas. Prenez le casque du salut. En gros, il dit, ta tête ne sera pas touchée. Vous vous souvenez dans Genèse, quelle est la malédiction que Dieu prononce sur le diable après qu'il ait séduit l'homme et la femme? Tu lui blesseras le talon, lui t'écrasera la tête. En général, dans la Bible, il y a d'autres passages comme ça où le fait d'écraser la tête, ça veut dire tu es écrasé, tu es mort et tu ne peux pas t'en relever. Si on a le casque du salut, si on a l'assurance de notre salut, on peut être éprouvé, on va pas être complètement détruit. Et en tant que chrétien, je pense qu'un courage peut venir de l'assurance de notre salut. Je me souviens aussi, j'ai souvent été marqué par l'histoire de Daniel. Donc c'est Daniel et ses amis, c'était trois jeunes hommes, ils arrivent dans un royaume. Et eux, ils craignaient Dieu, ils craignaient le vrai Dieu. Et dans ce royaume-là, on leur dit, prosternez-vous devant l'idole, devant cette idole, sinon vous allez mourir. Il a dit, Dieu peut nous délivrer de la mort. Et même si Dieu ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner. Quand tu as l'assurance de ton salut, qu'après cette vie, tu seras dans le royaume de Dieu, tu peux résister devant les traits enflammés du diable. Parce que tu peux souffrir. Mais tu ne peux pas perdre la vie. L'apôtre Paul disait, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir d'être ici. Mais je suis aussi pressé d'être avec le Seigneur. Pour lui mourir, c'est être avec le Seigneur. Qu'est-ce qui peut faire peur à un homme qui n'a pas peur de la mort? Le casque du salut. Ensuite, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Les autres armes, c'était un peu pour la défense. Le casque, le bouclier, la cuirasse. Et l'épée, c'est une arme offensive. Et moi, quand je vois ça, je pense beaucoup au Seigneur dans le désert. Quand il est tenté par le diable, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il rétorque. Il est aussi écrit. Quand le diable va mettre des suggestions dans nos têtes, tu peux tricher ici. Tu peux répondre, ok, il est écrit. Ce que Dieu m'offre est meilleur. Tu peux voir que Dieu pourvoira des besoins. Bien quand le diable va te suggérer des plaisirs qui t'éloignent de Dieu, tu peux savoir, si tu trouves, tu vas trouver dans la parole le moyen de riposter, de savoir que les plaisirs qui sont en Dieu sont meilleurs que les plaisirs du monde. Ça, c'est pour l'armure de Dieu. Et puis, en troisième point, l'apôtre Paul nous appelle à tenir ferme par la prière omniprésente. Je lis de 10 à 20. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Comment trouver sa force en Dieu? C'est par la prière. Il dit, faites en tout temps. Dieu, c'est un Dieu impliqué. Dieu, c'est un Dieu qui va être impliqué dans tous les compartiments de nos vies. Des fois, enfin, moi, en tant que je suis souvent plus succinct quand je demande des nouvelles à quelqu'un, je suis impressionné quand ma mère appelle ma soeur. Elles font des heures au téléphone. Elle dit, mais vous parlez de quoi? Et après, elle se souvient, elle dit, oui, comment va ton collègue qui était malade l'autre jour? Je dis, waouh. Je crois que c'est comme ça que Dieu veut être impliqué dans nos vies. Prions en tout temps par l'Esprit. On peut lui confier tout ce qui nous passe par le cœur, tout ce qui nous passe par la tête, dans tous les domaines de nos vies. Dieu ne se lasse jamais de nous écouter. Et on peut lui dire n'importe quoi. Dieu n'a pas, et on n'a pas besoin d'avoir honte devant Dieu. Il sait déjà tout de toute façon. Et si on vit comme ça, cette relation dynamique avec Dieu, ce sera une arme pour nous préserver. Parce que Dieu est présent, mais juste en priant régulièrement, on est conscient de sa présence. Prédit, priez pour moi. Priez pour moi aussi. Mais l'apôtre dit, priez pour moi. Et des fois, on peut se dire, l'apôtre Paul, c'était l'homme. Il a tenu ferme devant toutes les épreuves qu'il a eues. Mais comment il se met sur quoi il s'appuie? Il dit, priez pour moi. Il s'appuie lui aussi sur la prière que le frère peut faire pour lui. Et je pense au Seigneur qui disait, priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Jésus qui dit qu'on prie pour que Dieu envoie des ouvriers prêcher l'évangile. Donc notre prière a une efficacité, notre prière a une efficacité, notre prière a une puissance. Souvent ce n'est pas visible dans l'immédiat, mais notre prière a une efficacité, notre prière a une puissance. Et puis dans le verset 21, il dit, afin que vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, le bien-aimé frère et fidèle, ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Donc Tychique, c'est peut-être celui qui a amené la lettre aux Éphésiens. Il dit, il va vous dire tout ce qui me concerne. Donc il faut savoir comment prier. Ils vont savoir comment prier pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne se voyait pas comme un homme au-dessus de la mêlée, même si d'un point de vue de la révélation de Dieu, il était. Mais il disait, je vais vous informer de tout ce qui me concerne. Vous saurez comment prier pour moi. Et il dit donc, priez avec persévérance, régularité. Et puis, priez pour tous les saints. Bon, les saints, ce n'est pas les saints, les saints comme on le conçoit dans la religion catholique. Souvent, les saints, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, tous les chrétiens, prions les uns pour les autres. Pour terminer, je vais nous donner enfin, quelques implications, plutôt quelques encouragements, deux encouragements et une exhortation suite à ce passage. Le premier, c'est que Jésus lui-même a été un précurseur, un modèle dans la persévérance. Je pensais au chapitre 12, verset 1 à 4 d'Hébreux qui dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, avec les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ce passage nous montre que Dieu ne nous a pas juste dit allez lutter, mais Dieu lui-même est venu et c'était difficile pour lui. Et celui, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Jésus a lutté jusqu'au sang, jusqu'à son sang a coulé. Dans toute notre souffrance, Jésus sait par quoi on passe, parce que lui-même est passé par pire que nous. Jésus a vécu certainement pire que nous. Donc non seulement il peut nous comprendre, mais on peut regarder à lui. Pour continuer la course, pour continuer à résister, pour continuer à chercher à plaire à Dieu en tout. Deuxième encouragement dans cette lutte, c'est que la victoire est assurée. Comme on le voyait tout à l'heure avec le casque du salut, on peut souffrir dans cette vie, mais on ne sera pas terrassé. Parce que de toute façon, on a la vie éternelle si nous avons mis notre foi en Dieu. Dans Romains 16, le verset 19 à 20, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, purs en ce qui concerne le mal, Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Si nous, on ne sera pas écrasé, la tête de Satan sera écrasée. Alors, après le bientôt de la Bible, Dieu éternel, hein, 2000 ans, 3000 ans, c'est bientôt pour Dieu. Un jour, 2000 ans. Mais on a cette promesse que la victoire est assurée dans notre combat. Et puis, troisième encouragement, c'est prions les uns pour les autres. Parfois, on peut dire dans l'église, je prie pour toi, ou je vais prier pour toi. Un peu à la, bon, parfois c'est vrai, mais parfois on peut le dire à la légère. Mais ici, dans cette église, je peux, bon, à part ceux qui ne sont pas là, je peux dire que j'ai déjà prié pour vous tous nommément. Je pense que ça, c'est important. Et priez aussi pour moi. Je lisais dans un commentaire sur la prière de Martin Luther. Il dit, quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que la sainteté de ton nom grandisse dans le cœur des hommes. Et souvent, même si je ne connais pas les sujets spécifiques, c'est comme ça que je prie pour vous, en général, pour les frères en Christ. Moi, je dis d'abord que ton nom soit sanctifié en moi. Je commence par moi. En priant les uns pour les autres avec persévérance. Et puis on voyait comme l'apôtre Paul disait, Tichique va venir vous dire ce qui me concerne. Concernant nous aussi, ce que les autres traversent et prions pour eux. Donnons aussi des nouvelles. Parfois, on peut ne pas être transparent, parfois on peut ne pas partager ses fardeaux, mais c'est ce que la Bible nous appelle à faire, à partager nos sujets, à prier les uns pour les autres. La prière a une vraie efficacité. J'ai prié pour nous. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole que tu sèmes dans nos cœurs. Père, nous pourrions en parler longtemps, mais nous ne cernerions pas la profondeur. Et Père, surtout, c'est toi qui peux transformer cette parole en réalité dans nos cœurs, dans nos vies. Père, je te prie pour chacun ici qui est ton enfant. Que tu le fortifies, tu la fortifies par ton Saint-Esprit, afin qu'elle puisse s'appuyer sur ta force, qu'elle sache s'appuyer sur la prière, persévérer dans la prière pour tenir ferme, pour être agréable en toutes choses, pour regarder à Jésus qui a souffert parce qu'il savait qu'il retournait dans le royaume. Mais on peut se dire que c'était Jésus, mais nous aussi, nous allons rentrer dans le royaume avec lui. Aide-nous à regarder à Jésus. Qui a méprisé la souffrance parce qu'il savait ce qu'il y avait derrière. Père, aide-nous, Père, s'il te plaît, à persévérer. Père, et je te prie pour ceux qui peut-être te cherchent, ne te connaissent pas encore. Père, je te supplie que tu leur accordes de chercher ce salut avec toute leur force, parce que à quoi servirait la terre si on n'a pas de gagner toute la terre si on perd son âme. Père, bénis-nous par ta parole, je te prie. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen.